J'aurais une question sur, vous avez parlé de discrimination légalisée. Qu'en est-il des associations de défense de droits de l'homme ou autres en matière de ces lois qui peuvent être du coup contestées contrairement aux circulaires?
En fait, c'est pour ça que je parlais aussi justement de... J'ai essayé de vous démontrer, parce que souvent quand on pense droit, on l'essentialise et on pense une certaine neutralité du droit. Et effectivement, ce que vous soulignez est important sur les rapports de force dans la contestation d'une loi éventuelle ou dans les mobilisations des personnes qui se considèrent discriminées et qui souhaiteraient donc remettre en débat pour arriver peut-être à quelque chose de plus juste, de plus équilibré. La difficulté, et c'est pour ça que j'ai tendance à considérer qu'on commet une erreur quand on met en parallèle, c'est ce que j'expliquais dans mon propos, les conditions de la loi de 1905 et ce qui se passe aujourd'hui, puisque les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 1905, l'Église catholique, c'était quand même la toute-puissance, et elle avait une conséquence sur les libertés de ceux qui ne croyaient pas. Donc on ne pouvait pas divorcer, par exemple, si on souhaitait divorcer, pour ne citer qu'un exemple. Ça avait des conséquences en termes d'état civil, ça avait des conséquences qui étaient énormes. Donc aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de personnes qui nous consultent, considérant que ces lois donc ont eu des conséquences assez importantes allant jusqu'à l'exclusion, l'impossibilité de scolarité, même si après il y a le CNED et il y a un certain nombre de détournements, mais qui ne sont pas mobilisés et organisés de manière à avoir un rapport de force suffisant pour contester. C'est pour ça que quand on parle de notamment ça va concerner les sikhs et éventuellement les musulmans, quand on parle d'une communauté, d'un groupe organisé et qu'il y aurait éventuellement un risque de remise en cause de la laïcité, on est sur un rapport qui est totalement fantasmé, puisque juridiquement parlant, il n'y a même pas de quoi organiser et mobiliser suffisamment pour avoir une contestation de cette loi de 2004. Donc on est plutôt sur des publics, et ça s'explique, mais ça je pense que Fabrice et puis d'autres l'expliqueront mieux que moi, mais sociologiquement ça s'explique, puisqu'on est déjà sur des publics principalement qui sont discriminés par ailleurs, de par leurs origines, c'est pour ça que j'ai parlé aussi des autres critères de discrimination, et qui se sentent pas la légitimité en qualité de sujet de droit de pouvoir s'attaquer à une loi qu'il considère comme ayant fixé les choses à un moment, même si le ressenti d'injustice et même si l'incompréhension dans la discussion. Et surtout, je pense que ce qui est important d'un point de vue juridique, c'est l'incompréhension pour les personnes entre les principes de liberté et l'application pratique qui va conduire à se rendre compte qu'il n'y a pas d'effectivité de ces principes. Un peu comme le principe d'égalité. C'est-à-dire, certains vous diront, bon, l'égalité, elle est sur tous les frontons. Sauf que quand je cherche du boulot, je suis discriminée. Quand je suis une femme, je peux pas. Donc, ce qui est violent pour les gens, cette violence, c'est la dichotomie entre des principes qu'ils connaissent et dont ils savent que la France a ratifié, a intégré dans un certain nombre de dispositifs et cette application d'une loi ou d'un certain nombre de pratiques qui vont totalement à l'inverse, avec un sentiment qu'il n'y a pas eu de débat, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la loi de 1905, c'est quand même 2 ans de débat, avec des commissions, des allers-retours, des discussions, avec l'ensemble des partenaires, pour arriver à quelque chose de... Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, sur le terrain, on a des émergences de mobilisation pour agir juridiquement, mais on a plus une sorte de fatalité avec une rancœur et avec un sentiment que de toute façon le droit ne servira à rien puisqu'il sert les intérêts par ailleurs. Et c'est pour ça que je parlais de légalisation de la discrimination. Le risque est là.
Bonjour. Moi, je m'interroge juste sur le lien qu'il existe entre l'écart plutôt, entre les valeurs et les buts poursuivis par les professionnels de l'éducation et concrètement les situations qu'on rencontre et comment on les traite. C'est-à-dire, je me dis, notamment quand on arrive au lycée, quel accompagnement il y a en direction des lycéens lorsque justement ils vont venir avec un signe qu'on va dire distinctif ou quand ils vont tenir des propos. Je vois par exemple par rapport à l'appel à manifestation qu'il y a eu mercredi dernier. Bon, ben voilà, moi je vois comment ça s'est passé dans mon établissement par rapport aux lycéens qui ont parlé de ça. Et du coup, je trouve qu'on les accompagne peu, en fait, enfin, sous couvert de neutralité, on ne va pas non plus accompagner à un moment donné un esprit peut-être de réflexion, de s'interroger sur aussi le monde qui les entoure. Enfin voilà. Et je trouve que voilà, sous couvert du coup de neutralité du service public, on va un petit peu aussi verrouiller des questions que vont se poser les jeunes et voilà, sous couvert de neutralité, on va verrouiller au lieu de discuter.
Alors, je pense que par rapport à ça, vous en échangerez davantage sur la question des pratiques, mais effectivement, vous soulevez un point qui est intéressant également, et les chartes, les injonctions qui vous sont faites aujourd'hui peuvent être totalement décryptées d'un point de vue juridique. Toute la problématique, c'est qu'on intègre des notions et des espaces qui vont devoir discuter un certain nombre de choses, tout en opposant ce principe de neutralité qui permette pas à la personne. Donc il y a effectivement un problème de moyens mis en œuvre par l'État qui, à mon sens, si on maintient ce principe de neutralité, devrait recourir à des outils extérieurs qui permettraient de permettre que le professeur lui-même, si on reste sur ce principe de neutralité, n'émette pas ses opinions et qu'on ait des personnes formées, non soumises à ce principe de neutralité, qui aient des points de vue situés différents les uns des autres et qui puissent créer ces espaces de discussion. Mais aujourd'hui, le système qui est mis en œuvre sur ces journées de laïcité, sur ces débats, sur un certain nombre de choses, effectivement, n'est pas possible avec le système juridique français du principe de neutralité si cela incombe aux enseignants de réaliser cette mission. Ça n'est pas effectivement possible, parce que ça suppose d'avoir soit de faire venir des intervenants extérieurs, soit d'émettre un point de vue qui sera nécessairement situé. Tu viens d'accord, mais là je pense que c'est plus sur les pratiques, mais juridiquement ça crée une incohérence qui est un argument effectivement, et c'est pour ça que le droit souvent est perçu malheureusement, enfin moi je le déplore, par beaucoup de professionnels comme faisant peur, comme étant des contraintes supplémentaires. Moi j'ai souvent trouvé qu'au contraire ça pouvait être aussi un outil de protection hiérarchiquement parlant et autres, de dire attendez, moi aujourd'hui je suis pas en mesure de faire ce que vous me demandez parce que justement je suis soumise à un certain nombre de règles dont le principe de neutralité, et je n'entends pas me mettre en faute professionnelle, ce qui n'est pas la même chose que de dire oh, moi j'ai pas très envie, ça m'intéresse pas, je suis pas disponible, ça me rajoute du boulot. Là on est sur une injonction enfin légale, c'est-à-dire que dire aujourd'hui dans son établissement, et c'est vrai que ça pose une question d'organisation qui doit être pensée en fonction des règles juridiques en place, dont la neutralité. Ça, c'est certain. Tout ce qui doit être mis en œuvre ne peut pas être pensé en dehors de ça, puisqu'aujourd'hui, j'en parlais assez rapidement, il y a effectivement la question de la discrimination, et puis il y a la question de la remise en cause du principe de neutralité, où on a le sentiment que l'État n'est plus du tout neutre, par rapport notamment à la religion musulmane, dans les injonctions qui sont faites de s'organiser, parce qu'on a quand même demandé à cette religion d'avoir un référent, de s'organiser. Alors effectivement, comme c'était le cas avant la loi de 1905, sauf qu'entre-temps, il y a eu la loi de 1905. Et c'est pour ça que j'en revenais au concordat, puisque certains se questionnent de savoir si l'État français ne devrait pas faire un concordat avec l'islam. Moi, j'ai lu ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème, y compris au niveau de l'État, de neutralité, dans l'ingérence qui est faite, ça doit se construire avec ce principe de neutralité. Donc soit on le remet en cause pour tout, et alors on remet tout à plat et on rediscute tout, soit effectivement on maintient ce principe et on l'organise de manière à pouvoir le respecter. Puisque un État qui demande à une religion de s'organiser pour avoir un interlocuteur, qui ensuite demande à avoir un droit de regard sur la formation des imams, sur c'est tout un avant 1905. Alors certes, la religion, l'arrivée de l'islam en France est postérieure, enfin est nouveau, mais néanmoins, on a des principes qui existent et qu'il va falloir appliquer au risque justement de créer des différences entre les différents cultes, ou alors un régime juridique différent. Mais la neutralité, ça se pense vraiment, enfin, le principe de séparation, il se pense dans les deux sens, et on a tendance à le penser que d'un côté. Il se pense du point de vue de l'État dans sa non-ingérence, il se pense du point de vue des enseignants dans leur impossibilité à manifester leur liberté, et il se pense aussi du point de vue des usagers et de la société civile dans les obligations qui lui sont faites de respecter un certain nombre de règles.
Oui. Bonjour, deux questions de... peut-être de droit. La première des questions, elle porte sur l'articulation de la Convention internationale des droits de l'enfant avec les droits nationaux, et en l'occurrence sur le sujet qui nous occupe, l'articulation de la culture du droit, la culture religieuse, convictions religieuses, et en même temps la neutralité dont vous parlez actuellement. Et qui semblerait plus être une neutralisation qu'une neutralité. Donc la première question. Puis la deuxième question, vraiment très naïve, et je pense que tout le monde est intéressé aujourd'hui, professionnellement, par cette question. Quelles sont les incidences de l'état d'urgence sur, justement, ce rapport à la laïcité? Je vous donne un exemple pour être bien, bien au clair sur cela. Je devais faire une conférence sur Averroès et la laïcité. dans un SP de France, on m'a conseillé de ne pas la faire. Donc j'étais obligé de trouver une structure extérieure, alors que mon esprit était plutôt dans un esprit, si vous voulez, de faire comprendre qu'il y a eu en terre culturelle islamique et autres des concepts de laïcité. Et donc je pense qu'il y a un état de tension aujourd'hui qui fait que la liberté d'expression et le travail sur l'enseignement du fait religieux, au sens de Régis Debray, devient de plus en plus difficile du fait de la mésinterprétation dans l'application des lois sur l'état d'urgence. Voilà, donc c'est une question très, très jurisprudentielle, si j'ose dire.
Alors, sur l'articulation entre la Convention internationale des droits de l'enfant et des droits nationaux, donc c'est ce que je disais, effectivement, il y a une valeur supranationale, donc article 55 de la Constitution, la Convention internationale a une force plus importante que nos lois nationales. C'est d'ailleurs ce qui a pu être mobilisé par certains, ou tenté d'être mobilisé, sur l'article 3.1 de la Convention des droits de l'enfant, et notamment on en parlait sur la question de l'accompagnement des parents en sortie scolaire, ça pose véritablement question au regard de la compatibilité avec l'article 3.1, donc toutes les décisions qui doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant. On a des situations aujourd'hui où on se questionne sur la violence de cette exclusion d'un parent qui arrive pour accompagner au moment même où il arrive, en présence des enfants, dont l'enfant du parent concerné. Et donc un certain nombre de développements juridiques aujourd'hui s'orientent vers la violation de l'intérêt supérieur de cet enfant face à une décision d'interdiction qui serait mise en œuvre. Ensuite, toute la difficulté de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais là ça va faire rentrer un peu dans du débat juridique, c'est qu'il faut être prudent sur la mobilisation des articles, c'est-à-dire certains articles ont un effet direct dans notre droit national et d'autres ne sont pas encore considérés comme pouvant être mobilisés au niveau de notre droit national. Par contre, l'intérêt supérieur de l'enfant est admis jurisprudentiel comme pouvant être mobilisé et aujourd'hui, nombre de décisions sont au visa de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'état d'urgence, effectivement, c'est un point qui est intéressant dans le débat qui est le nôtre sur savoir la place des libertés et le recul de ces libertés. Puisque aujourd'hui, on est quand même juridiquement, alors là ce serait trop long et trop compliqué, puis je suis pas sûre que ce soit intéressant pour tout le monde, mais voilà, aujourd'hui on est en train de glisser, certes en termes d'atteinte aux libertés, c'est-à-dire on met un certain nombre de conditions supplémentaires aux libertés, mais également, surtout, on est en train de glisser sur le pouvoir de celui qui contrôle ces libertés. C'est-à-dire que toute la difficulté de l'état d'urgence aujourd'hui, c'est de faire passer un certain nombre de règles qui sont habituellement contrôlées par le juge judiciaire aux mains d'un droit administratif et du préfet essentiellement, mais voilà, entre autres. Et ça a une incidence juridique, alors pas uniquement en termes de séparation des pouvoirs, même si c'est quand même là aussi un de nos apports importants quand même de notre démocratie, enfin après voilà, mais surtout ça a une incidence juridique dans le sens où si vous avez un droit qui est contrôlé par le juge judiciaire, il est contrôlé a priori. C'est-à-dire, avant de porter atteinte à un droit, vous sollicitez du juge judiciaire la possibilité d'y porter atteinte. Si vous avez affaire à un régime administratif, il est contrôlé a posteriori. C'est-à-dire que la violation du droit, elle est déjà intervenue. Donc ça dit quand même des choses aujourd'hui de la mobilisation du droit, du juge et de l'endroit où on va se placer pour vérifier de la légalité de ce qui est fait et des atteintes aux libertés individuelles. Concrètement, on va vous dire effectivement, bon, on va prendre actuellement c'est beaucoup les questions d'assignation à résidence et puis surtout de perquisition administrative parce que l'assignation à résidence, à la limite, vous pouvez saisir un juge, elle est encore en cours. Donc si le juge l'invalide, comme ça a été le cas pour certaines, bon bah vous retrouvez votre régime de liberté. Par contre, la perquisition administrative. Aujourd'hui, on est confronté à une situation où on demande au juge de contrôler les éléments qui... Enfin, la nécessité d'une telle mesure avec les contraintes que ça suppose et la liberté. Et aujourd'hui, le juge va se placer à un moment où la perquisition a eu lieu, où tout a été réalisé et où l'atteinte à la liberté, elle a déjà été réalisée. Donc l'état d'urgence, il est aussi important là-dessus, dans ce qui génère certes en termes de recul des libertés individuelles, mais aussi et surtout dans ce qui génère juridiquement, en termes de juges compétents, de régime juridique et de contrôle avant ou après des atteintes aux libertés.
Juste, vous c'est la parole. Juste, quand vous prenez la parole, juste pour situer un petit peu pour les autres qui vous êtes, votre métier, parce que vous le savez peut-être pas encore, mais dans la salle, il y a des métiers très très différents, des institutions différentes. Donc ça peut être intéressant, voilà, que les gens sachent d'où vous parlez.
Oui, bonjour, Madame Nguyen, professeure d'histoire au Collège Alain de Saint-Fond. Je me pose plusieurs questions. Vous avez souligné que le Comité des droits de l'homme avait ciblé la loi de 2004 comme une loi générale et absolue, alors qu'il faudrait peut-être revenir sur du cas par cas. Mais par rapport aux signes ostentatoires, on est bien encore sur du cas par cas, puisque selon que on a remplacé le voile. Alors le voile est plutôt bien appliqué. Enfin, globalement, le voile est un signe ostentatoire et accepté par tous. Mais qu'en est-il des autres signes? La tenue de prière, le bandeau dans les cheveux, qui a été quelque part une réponse aussi de nos élèves par rapport à cette loi. Ça pose la question du cas par cas, tout simplement parce que quand on est confronté à ce genre de situation, on peut envoyer notre élève vers le chef d'établissement, mais selon le cas, justement, il va y avoir une exclusion ou il va y avoir une réintégration. Et puis même s'il y a exclusion et que l'élève porte plainte, vous l'avez prouvé vous-même, le tribunal lui-même n'est pas... Cela dépend en fait de l'endroit où on va défendre son dossier. Et du coup, cela pose la question de la neutralité, tout simplement.
Alors effectivement, le fait d'avoir fait glisser... Donc je l'ai montré avec en 92, d'avoir fait glisser sur la notion même de signe, a changé la coloration du débat, puisque au départ, la mise en perspective, quand on disait en 89 on doit apprécier au cas par cas, on ne devait pas apprécier au cas par cas la tenue. On devait apprécier au cas par cas le comportement de la personne dans le trouble à l'ordre public et dans l'atteinte au bon fonctionnement du service public. Donc aujourd'hui, et ça rejoint un petit peu la notion d'état d'urgence et des législations qui sont en cours, c'est-à-dire que de plus en plus, on glisse d'une répression, non plus d'un comportement actif, c'est-à-dire que le droit en général attend d'avoir au moins un minimum d'actes préparatoires, c'est-à-dire d'avoir la démonstration que la personne, elle entend troubler l'ordre public, qu'elle génère une contrainte, un prosélytisme sur ses camarades, qu'elle trouble le cours, enfin voilà, j'en passais des meilleurs des exemples. Donc au départ, le cas par cas, il était situé dans un cadre qui est toujours applicable en droit dans toutes les notions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voulez faire une manifestation dans une salle pour savoir si on vous loue la salle ou pas, un spectacle, il va y avoir une appréciation du contexte local, de ce que vous voulez faire. Donc l'ordre public est toujours, et heureusement, une appréciation au cas par cas, parce que sinon on en viendrait à des interdictions générales sans même savoir si la personne, les raisons pour lesquelles elle porterait cette tenue, quel allait être son comportement par rapport à cette tenue. Donc là où ça a glissé, c'est que c'est pas le même cas par cas. Là, on demande d'apprécier le caractère ostentatoire et donc prosélyte ou pas de la tenue elle-même, en dehors même du comportement de la personne. Bon, s'il y a comportement, c'est quand même mieux, parce que s'il y a une contestation, il vaut mieux avoir le comportement avec. Là, c'est quand même mieux. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a ça. Donc la question de savoir, et vous avez raison, ça pose directement la question de la neutralité. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à venir apprécier... Alors maintenant, dans le droit du travail également, ça va loin. C'est-à-dire, est-ce que le fichu, il doit être porté façon sicilienne? Est-ce qu'il doit être porté façon je ne sais quoi? Donc on a toute une mode de la manière dont ça pourrait être finalement plus acceptable. Mais la question, en réalité, juridiquement pour moi, elle n'est pas celle-là. Et d'avoir glissé sur ce signe-là, ça rend les choses... d'abord, ça crée de l'arbitraire et de la subjectivité. L'ordre public, c'est déjà une notion floue, ça on est d'accord, mais il y a quand même un certain nombre de jurisprudences qui disent ça relève de l'ordre public, ça n'en relève pas, et puis il y a une certaine rhétorique du raisonnement pour l'ordre public, c'est-à-dire que si vous invoquez l'ordre public, il va falloir démontrer qu'il y a eu des incidents réels. On n'est pas sur un droit préventif, enfin préventif d'un nouveau trouble, mais qui s'inscrit quand même dans un trouble précédent. Le signe et la tenue en elle-même, on est sur de l'appréciation. Et aujourd'hui, effectivement, ça va être, on l'a vu, hein, la jupe, le bandana, certains vont estimer que non, c'est pas très discret comme signe, donc d'autres vont estimer que si ça l'est, en dehors même des autres critères qui étaient les critères les plus importants, c'est-à-dire le respect des règles du fonctionnement et l'ordre public. Donc oui, ça pose un problème de neutralité sur l'appréciation de la manière dont une religion doit manifester ses convictions, étant précisé que la Cour européenne des droits de l'homme avait quand même rappelé dans un arrêt de 93, côté Kine, que la liberté religieuse procède de l'identité de la personne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, on doit avoir, dans ce que la loi demande, une appréciation de la tenue de la personne qui est totalement contraire à la neutralité et qui pose aussi problème aux tribunaux. C'est-à-dire que les tribunaux, aujourd'hui, la question de savoir de l'appréciation du voile, est-ce qu'il est conforme aux convictions religieuses de la personne et est-ce qu'il est discret ou pas, ça fait des débats qui sont quand même assez, assez inquiétants sur la notion de subjectivité, d'arbitraire et d'insécurité juridique territoriale et autres, quoi. Donc oui, ça pose un problème de neutralité évident, et c'est pour ça que le Conseil d'État avait considéré qu'il valait quand même mieux être sur des notions objectivables, à savoir le comportement de la personne et le trouble à l'ordre public et le bon fonctionnement de la scolarité de la personne, qui était un minimum objectivable. Même si le trouble est discutable, au moins on peut l'objectiver par des actes concrets plutôt que par des présupposés sur une tenue.
Juste pour compléter, il faut voir aussi que cette question de la tenue des élèves, elle vient aussi s'inscrire dans une longue histoire scolaire de l'appréciation et de la normativité qu'on impose à la tenue des élèves, y compris sur des questions non religieuses. Voilà. Donc, et de la manière dont forcément les adolescents, par rapport à ces normes qu'on veut leur imposer, il y a une question là-bas, puis après ça sera à vous, et on s'arrêtera là parce que sinon on n'aura pas le temps de faire une petite pause.
Oui. Encore moi, donc Karima Guézou, CPE stagiaire. J'avais une question au sujet de la laïcité, pour revenir à l'essence même de la laïcité, qui était quand même à la base, a été pensée pour protéger les minorités religieuses. L'islam étant aujourd'hui quand même une minorité, même si c'est la deuxième religion représentative en France. Depuis la commission Stagzi, je trouve que justement, elle est plus protégée, elle est plutôt, enfin, la population, je m'entends, elle est plutôt discriminée. Donc, je reviens à cette notion de discrimination et ce déplacement de la pensée de la laïcité telle qu'elle a été conçue au départ. Voilà.
Oui, je pense que, enfin, dans ce que j'ai montré, effectivement, en tentant de vous démontrer qu'on n'était pas du tout d'abord sur les mêmes rapports de force, hein, c'est ce que je disais, et que effectivement, on peut pas considérer l'islam, enfin les ressortissants français de confession musulmane aujourd'hui en France dans une situation équivalente aux Français catholiques de 1905. Donc oui. Et après la question, mais ça, l'esprit de la loi l'a toujours dit, hein, y compris Briand a toujours dit, quand vous aurez une difficulté sur l'appréciation de la loi, puisque il faut savoir que dans tous les domaines, la loi ne dit pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va nécessairement y avoir interprétation et responsabilité de chacun sur la manière dont on va interpréter ce droit, avec les risques que ça génère si on se trompe dans l'interprétation, et avec l'intégration d'une éthique professionnelle. C'est-à-dire que quand je dis, moi, ma conviction, elle n'est pas neutre, quand je construis un raisonnement juridique, forcément, je le construis avec mon influence de plus de liberté dans tous les domaines et pour toutes les personnes. Donc, il y a cette construction du raisonnement qui va conduire, effectivement, à intégrer la notion de liberté, de protection, de non-discrimination. Et l'esprit de la loi a toujours été, quand on relit des débats parlementaires, c'est qu'à partir du moment où il y a un doute, il faut en priorité privilégier la liberté. Puisqu'effectivement, vous avez raison, l'esprit de ce régime juridique au départ était de protéger les libertés de chacun, c'est-à-dire ceux qui ne croyaient pas, ceux qui étaient minoritaires, les protestants, les calvinistes et effectivement les juifs ensuite, et ceux qui croyaient. Donc l'idée, c'est d'avoir, et c'est pour ça qu'ils disaient que c'était juste et équilibré pour chacun, puisqu'ils avaient le sentiment que dans ce régime juridique qui était appliqué, les uns et les autres avaient le sentiment, certes, d'avoir des obligations qui pouvaient entrer en tension avec leur liberté, mais néanmoins un espace de liberté religieuse et de manifestation religieuse qui était possible. Aujourd'hui, clairement, juridiquement, si vous décidez en France actuellement de porter le voile et que vous êtes une femme, la question de la scolarité va se poser, la question de l'emploi va se poser, la question de l'accès à certains services publics et qui ont une vision très restrictive de la laïcité va se poser. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des gens quotidiennement qui viennent nous voir en disant « j'ai pas pu rentrer dans le service parce qu'on m'a demandé d'enlever mon voile pour rentrer parce que le lieu était neutre ». Enfin, c'est à, si vous voulez, le risque, c'est que c'est sans limite, en fait, la déclinaison de la neutralité pour en arriver à une absence de liberté religieuse. C'est bien de ça dont il faut avoir conscience. C'est qu'à un moment donné, quand on ouvre une brèche sur une atteinte à des libertés avec des critères subjectifs et qui sont pas liés à des comportements mais liés à des présupposés, eh ben, on arrive à un régime qui est très dangereux en termes de liberté publique et individuelle, évidemment.
Je serai pas long du tout. Voilà, je suis Laurent Jacquelin, je suis délégué du préfet donc du département du Rhône. Et donc je voulais répondre à la question là sur le vêtement, puisque dans le cadre du diplôme universitaire religion, liberté religieuse et laïcité, hein, que j'ai suivi l'an dernier, donc j'ai présenté mon mémoire sur le sujet du vêtement au prisme du religieux et de la laïcité. Donc le sujet, c'est vraiment le vêtement, et voir comme en tant que moyen d'expression, hein, en tant que porteur donc de signification et de sens, en reprenant les analyses de sémiologie, hein, de, enfin, c'est-à-dire l'analyse saussurienne entre parole, langage et langue, combien le vêtement, en fait, c'est quelque chose de très très important, à la fois dans la façon de dire quelque chose de soi, mais aussi dans la façon dont il est reçu dans l'espace, alors l'espace public, l'espace commun, les espaces collectifs, et donc aussi la laïcité. Voilà, donc si ça intéresse donc la dame qui a posé cette question, moi je peux lui faire parvenir mon mémoire, voilà, volontiers, puisque le but de ce diplôme, c'est aussi de partager donc les fruits de nos recherches. Voilà.
Alors, juste effectivement, je ne sais pas si j'ai été effectivement claire ou si ça répondait. Quand on parle d'un point de vue juridique, la notion du vêtement, forcément, on ne va pas l'appréhender de la même manière quand on mobilise le droit. Et notamment, beaucoup de personnes au départ sont éventuellement allées sur une jurisprudence sur la il y avait des jurisprudences sur le short, la possibilité de se vêtir. Qu'on soit bien clair, là, en l'occurrence, on parle totalement d'autre chose, puisqu'on parle non pas d'une manière de se vêtir, mais d'une liberté religieuse protégée d'un point de vue européen, international et national. Donc c'est vrai que sur et c'est pour ça que, en 89 et jusqu'à très récemment, jusqu'à 2004, en réalité, le vêtement en lui seul était un des faisceaux d'indices d'une possibilité de mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire, mais ne pouvait en aucun cas être le seul, puisqu'il fallait qu'il y ait par ailleurs des comportements, des attitudes, des refus. Voilà. Donc juridiquement, la question du vêtement, mais on pourra en échanger en lisant vos écrits. Oui, non, mais bien sûr que ça dit des choses de ce que des messages qu'on veut envoyer, mais ça suffit pas à asseoir un régime juridique. Voilà, ça. Voilà.